Alors que les festivités, les célébrations se poursuivent pour les joueurs et les membres de l'organisation du Lightning de Tampa Bay, eh bien, la haute direction hockey de cette équipe-là est déjà de retour au boulot depuis tôt ce matin. Eh bien oui, Julien Brisebois, Mathieu Darche et tout l'organigramme était de retour au boulot avec le repêchage qui s'en vient, la période d'autonomie, on ne sait pas quand la prochaine saison va recommencer. Comme quoi, donc, oui, bien des raisons de célébrer, mais c'est un calendrier hors norme actuellement. On a le plaisir d'avoir au bout du fil aujourd'hui Mathieu Darche depuis Tampa Bay. Bonsoir Mathieu et félicitations, comment tu te sens?
Ah, c'est tout un feeling. Écoute, quand on grandit, on pense à ça, un petit gars qu'on joue dans la rue à gagner la coupe, puis d'être sur la glace, puis d'avoir passé tout ce temps-là dans la bulle, puis d'avoir réussi à faire ce qu'on a voulu faire depuis le début de l'année avec les ajustements qu'on a fait dans notre équipe, c'était assez exceptionnel. Puis je peux juste m'imaginer comme joueur, c'est exceptionnel dans ma position aussi, puis je ne changerai pas rien au monde, mais comme joueur, ça doit être même une petite chose en haut, parce que c'est toi qui suis sur la glace, c'est toi qui passe au travers, mais c'était vraiment un feeling incroyable. Puis je suis vraiment content pour Julien qu'avec toutes les grosses décisions qu'il a prises cette année, tout a porté fruit. Puis on récolte ce qu'on a semé.
Je ne sais pas si toi et Jean-Philippe, ton frère, êtes des Lucky Charms, mais le Super Bowl pour Jean-Philippe comme médecin de l'équipe l'an passé, toi, tu te joins à Julien au Lightning, puis vous gagnez la coupe à ta première année en poste. Ça commence bien?
Oui, mais c'est ça. Je ne pouvais pas laisser mon frère être le seul avec sa bague. Fait que je me suis dit, regarde, on peut se mettre en avoir une. Puis j'ai fait une blague avec Julien après le match. Hein, on veut une blague. Je dis, voyons, c'est pas du rate management. Voyons, première année, on gagne. Mais écoute, j'ai été chanceux. Je suis rentré dans une très belle position. Là, on avait une bonne équipe, mais oui, le noyau de l'équipe était le même que l'année passée, mais je pense que les ajustements qu'on a fait autour de l'équipe ont fait une immense différence en série. Puis, écoute, c'est une année difficile pour le monde, partout dans le monde en 2020, mais regarde, chez les Dash, il y a quand même du positif dans tout ça avec un Super Bowl et une Coupe Stanley, donc c'est très gratifiant.
Très certainement. Est-ce que tu avais le privilège d'être avec ton épouse dans la bulle d'Edmonton ou, comme la plupart des joueurs, t'as retrouvé ta famille en revenant à Tampa Bay hier?
Non, il n'y avait aucune famille qui était... Quelques-uns de nos joueurs qui avaient des parents qui étaient là parce que c'est du Canada. Personne des États-Unis pouvait venir à cause du gouvernement fédéral n'avait pas accepté. Puis même moi, ma famille était allée faire un tour à Montréal. Depuis le 26 juin, je n'avais pas vu ma femme et mes enfants. Donc... j'avais très hâte de les voir hier, parce que c'était le fun, on est débarqué de l'avion, des familles nous attendaient, des familles sont tous venus à l'aréna, ils ont pris des autobus, ils les ont amenés tous à l'aéroport. Quand on a atterri, il y avait même des camions de pompiers qui arrosaient l'avion, quand on est arrivé au terminal, puis on est sorti, toutes nos familles étaient là, on a embarqué dans les joueurs dans des trolleys, je veux dire, là, ouverts et tout, avec la coupe, puis le Conn Smythe, puis le trophée Prince de Galles, puis, on avait une escorte policière jusqu'à l'aréna, puis on avait à peu près 1200 personnes dans l'aréna. Là, c'est des règles qu'on a droit ici. Principalement nos partenaires, les détenteurs de billets de saison de longue date et tout. Puis il y a une petite cérémonie sur la glace. Puis c'est le fun aussi, l'équipe, ils ont remis la glace cette semaine pour que les joueurs puissent vivre avec leur famille sur la glace en patin. Prendre des photos. Moi, j'ai pris une photo avec ma famille, avec la coupe, mes deux gars qui ont fait des gros sacrifices cette année pour me permettre de venir en Floride. Ils ont leur photo avec la coupe cette année au bout des bras. Fait que c'est vraiment le fun hier soir.
Dirais-tu que il y a deux facettes à ça, mais d'abord je vais prendre l'aspect là de l'aspect privé dans lequel vous avez pu célébrer ça compte tenu qu'il n'y avait pas de spectateurs à Edmonton puis un nombre limité en arrivant à Tampa Bay. Crois-tu, bon, c'est sûr que c'est ta première coupe, tu peux pas comparer à d'autres, mais que ça a fait que vous l'avez vécu d'une façon spéciale ou différente de pouvoir presque le vivre, tu sais, dans votre bulle au sens propre et au sens figuré, Mathieu?
Ben oui, tu peux te permettre d'être plus l'équipe ensemble, les familles ensemble, parce qu'il y a moins de gens autour. Tu sais, oui, il y avait des employés aussi de l'équipe qui étaient là hier. Mais tu sais, en général, tu as plus la chance d'être plus intime dans sa façon de faire. Puis même dans la bulle, là, ce qui était particulier, là, c'est tu sais, on a quand même passé, je pense, 66, 67 jours dans des bulles. Là. C'est les gars ensemble, puis c'est du hockey à tous les jours. Tu sais, j'ai du temps et le monde quand au début disait qu'il faut qu'il y ait un astérisque. S'il y avait une équipe qui n'était pas mettons, pas supposée être en série, qui gagne, qui se regarde, ils ont eu d'un autre côté, les règles, c'était ça, ils sont rentrés en série par la porte d'en arrière. Mais là, si tu regardes les équipes qui sont rendues plus loin, c'est vraiment les équipes qui étaient dans les premières positions au début d'année. Puis c'est tout le temps je dis l'expression en anglaise, c'est un grind physique, gagner la coupe. Mais là, c'était physique et mental pour les gars. Là. Je veux dire, passer du temps comme ça loin de leur famille. Puis, tu sais, il n'y a personne qui a pitié pour eux autres. On était dans des beaux hôtels et tout, mais si t'as beau être dans des beaux hôtels, les gars, pour faire de l'argent, ça reste que t'es enfermé là, pendant plus de deux mois. Fait que ça a été vraiment un challenge de ce côté-là. Puis nos gars, ils ont relevé le défi avec aplomb. Ça a été incroyable la façon qu'ils se sont comportés. Puis, tu sais, toutes les séries, on était en contrôle. Les quatre séries, on a réussi à prendre l'avance 3-1 dans chacune des séries. Tu sais, ça t'enlève un peu de pression. Fait que nos gars ont vraiment été sur la coche, je peux dire. Fait que ça a été vraiment un, je veux pas dire un printemps, mais c'était plus le printemps, un automne incroyable à vivre.
Mais j'écoutais très attentivement là, les conférences de presse d'après victoire de la Coupe cette année de tous les joueurs, Redmond, Stamkos, puis tous les gars qui ont défilé sur la tribune, et on a senti la grande satisfaction d'avoir gagné. Et quand tu parles d'un grind, là, on l'a senti l'adversité, parce que les gars, ça faisait longtemps, des gars comme Stamkos puis Edmund qui couraient après ce gros trophée-là, après cet exploit-là, et ça semble avoir été, au niveau de la motivation, par exemple, j'ai l'impression que vous n'avez pas tant eu à travailler sur la motivation, parce que les gars disaient tous que dès le jour 1 du camp d'entraînement, tout le monde est arrivé avec une mentalité business, vous veniez pour gagner, parce que Mathieu, vous auriez pu ne pas avoir l'opportunité de le jouer ce tournoi-là et de le gagner, et ça aurait pu être une année perdue, et ça aurait été d'une tristesse inouïe au plan sportif pour vous, avec tout ce que vous aviez assemblé, n'est-ce pas?
Ben définitivement, puis c'est avec tout le monde. L'année passée, là, les joueurs, là, j'étais pas encore dans l'organisation, mais ils ont mangé un coup de poing au menton l'année passée. Là, perdant quatre matchs là, après la saison qu'ils ont eue. Les gars, ils avaient out de parce que peu importe ce qui allait se passer pendant la saison régulière, là, on aurait pu avoir une autre saison de 62 victoires, là, puis le monde s'en serait foutu comme l'an 40 jusqu'à temps que qu'est-ce que vous allez faire en série. Fait que de ce côté-là, puis tu sais, ce qui est impressionnant de l'organisation aussi, puis je m'en étais même pas rendu compte avant de rejoindre l'organisation, c'est la quatrième finale de conférence en 6 ans. Là. C'est assez exceptionnel quand même. Oui, c'est la première Coupe Stanley, mais je me suis rendu compte, écoute, comme joueur, je savais que c'était difficile, mais là, tu te rends compte comment c'est difficile dans les Coupes Stanley, parce que, tu sais, à toutes les séries, là, mettons le premier match contre Columbus, là, qu'on
exact.
Là. Mettons, on le perd, celui-là, puis ça aurait pu arriver en prolongation, tu sais jamais, est-ce qu'on a eu le match, la plupart partie du match? Oui, puis Corpissalo, il y a une série incroyable, mais tu perds ce match-là, est-ce que ça nous affecte en disant, voyons, l'année passée, on a perdu en 4? Là, on vient de jouer 8 périodes du hockey. Là, je pense que les lancers avaient été 80 à 40, quelque chose comme ça. C'est un match exceptionnel, on perd encore. Est-ce que ça aurait pu nous ébranler? Oui, peut-être. On finit par gagner la série en 5. On perd le premier match contre Boston. Le deuxième, on s'en va en prolongation. Si on perd, est-ce que ça change la série? Possiblement, mais on réussit à gagner ce match-là. Donc, à toutes les séries, il y a tout le temps un moment qu'on se revient, puis les gars, ils ont vraiment montré du caractère, puis nos entraîneurs ont fait un boulot incroyable. Fait que nous autres, on est vraiment fiers d'équipe, puis dans nos positions. Puis tout ça, honnêtement, là, Mario, ça a commencé de la façon que Julien a géré la pandémie. Ça a été, honnêtement, là, il m'a impressionné parce que dès le début, là, il a été en. C'est sûr que moi, on se parle à tous les jours parce que les deux, on ne t'aime pas, puis on habite à 5 coins de rue l'un de l'autre. Là. Mais il a parlé à tous nos joueurs pratiquement toutes les semaines, tout le long de la pandémie. Tu sais, les garder engagés. Il parlait à nos dépisteurs, il parlait à tous les dirigeants, et il a fait un boulot incroyable de ce côté-là. Ça a gardé nos gars engagés. On n'a jamais eu moins que 19 joueurs en ville. C'est sûr, ça aide, c'est en hiver, puis on est en Floride, là, ça aide. Les gars restent à la maison. Puis la journée du camp d'entraînement qui a commencé, on a commencé déjà, on a testé les gars. Oui, on a eu quelques petits cas positifs au début. Là. Ça a été médiatisé, justement, là, au début juin.
Oui.
Au début, là, notre propriétaire, tu sais, ça coûtait cher, là, le testing. On testait les joueurs à tous les jours, le staff. Moi, je pense que je suis rendu à peu près à 75-80 tests de COVID depuis le début. Première journée de camp d'entraînement, c'est le ton que Julien a mis à tout ça. Puis d'avoir tellement communiqué avec nos joueurs comme ça, tu sais, c'est pas juste, chaque entraîneur, il sépare les joueurs qui pendant la saison, qui toi, tu t'occupes de ce groupe-là, toi, ce groupe-là. Pour être sûr qu'il y a des communications, mais Julien, en plus de ça, lui, personnellement, appelait pratiquement tous nos joueurs, il appelait nos dépisteurs, il appelait tout le monde pour garder tout le monde engagé, puis garder, hey, regardez, là, ça se peut que ça reparte, là, pour qu'on soit prêt. Fait que moi, je pense qu'il est trop humble, Julien, mais il prendra jamais ce mérite-là, là, mais ce qu'il a fait de ce côté-là, là, pour moi, c'était une des grosses raisons comment on est bien parti, puis on a bien joué dans le retour.
Tu as raison de souligner tous les aspects de son travail et de son leadership, parce que oui, il est très humble et il va faire rejaillir les honneurs sur tout le monde autour. Puis je pense que c'est la qualité d'un grand leader. Puis j'ai envie de retourner puis que tu me parles également, parce que tu es arrivé en mai 2019, Mathieu. Fait que tu as été témoin donc finalement de la fin abrupte là, l'an passé du balayage contre Columbus, et aussi de la façon, je dirais, presque chirurgicale dont Julien Brisebois, ou de la façon dont il a attaqué la suite des choses pour capitaliser sur l'opportunité qu'il y a avec le noyau de joueurs qu'il avait sous la main. Et il y a eu des changements. Puis moi, je me rappelle, c'est pas tout le monde. Tu sais, quand on perd, c'est pas facile de faire face à la musique, Mathieu. Et Julien nous parlait, je pense, le lendemain d'élimination, le surlendemain, même à nous de Montréal, loin de Tampa Bay, comme il l'a fait avec les médias de Tampa Bay. Et tu sais, il semblait avoir un plan, puis il semblait savoir comment il donnait suite. Et toi, tu as été un témoin privilégié, un complice de tout ce qu'il a accompli depuis ce temps-là, parce qu'il a opéré des changements. Même avec une excellente équipe qui va en finale de conférence 4 fois en 6 ans, il y a eu des changements nécessaires pour la gagner. Quand tu parles que c'est difficile de la gagner, c'est un autre exemple. C'est que même quand tu as un super bon club, des fois, faut que tu y ailles d'autres petits ajustements. Et il a été incroyable là-dedans, là.
Oui, effectivement. Puis quand moi, la première fois que j'avais parlé, c'était en avril, là, juste avant les séries, là, quand le Lightning avait joué contre le Canadien. C'est là que la première fois que Julien m'a parlé de me joindre à lui. Puis j'étais à Tampa, justement, pour visiter les maisons, les écoles avec mes enfants. Là. Je dis que c'était encore un secret. En avril, là, je pense, le match numéro 2, là, le match que Kucherov s'est fait suspendre en fin de match. Puis, tu sais, fait que j'ai été privilégié. J'ai pas été privilégié des 62 victoires. J'ai été privilégié à partir de où est-ce que l'équipe est rentrée dans le mur. Puis tout ce qu'il a fait par après, puis ça aurait été facile de paniquer, puis de changer d'entraîneur, puis de tout changer. Puis regardez, il s'est dit, gars, on a gagné 62 matchs, là. Je veux dire, c'est quelque chose. Là. Il y a juste, on a égalé le Canadien de Montréal et les Red Wings de Détroit avec 62 matchs, 62 victoires. Puis il s'est dit, OK, le noyau, il est là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour juste changer? Puis c'est pas des changements majeurs. Là. On n'a pas fait une transaction.
Le noyau est le même,
mais on a juste dit, OK, on doit être en série, il veut pas, là, faut que tu sois plus difficile à jouer contre. Fait que c'est ce qu'on a fait cet été. Puis en plus, vraiment, ça a commencé avec le plafond salarial, un bon contrat avec Braden Point. Après ça, on voulait, OK, Patrick Maroon, il joue sur la quatrième ligne, mais l'influence qu'il y a dans le vestiaire, un gros joueur, quand il amène la rondelle dans son territoire, il peut la garder pendant 20 secondes derrière le filet, personne n'est capable de l'y enlever. On t'a sorti Shannon Kirk, qui s'est fait racheter avec un petit chip on his shoulder, peut-être, excuse-moi l'expression, là.
Oui.
Qui est arrivé. Puis là, on a commencé tranquillement la saison. On jouait pour 500. Le voyage en Suède a été excellent pour nous, puisque nos joueurs ont passé pendant pratiquement 8-9 jours là-bas à avoir du plaisir ensemble. Puis là, on jouait bien. On avait toute une séquence là, en décembre, janvier. Puis on est arrivé à la limite des transactions. On avait identifié ce qu'on avait besoin. Puis les joueurs qu'on est allé chercher, en Goodrow puis Coleman, c'est les joueurs qu'on avait aidés. Le monde dit ça, mais je te dis, c'est un fait. Un mois plus tôt, là, avec nos dépisteurs qui font un travail incroyable, on avait nos meetings début janvier avec nos dépisteurs professionnels. Voici ce qu'on a besoin, puis c'est ce qu'on a. On a ciblé ces deux joueurs-là. Puis il y a du monde qui ont dit, ah, ils ont trop payé des choix de première ronde pour ces gars-là, mais le monde, ce qu'il dit, c'est que c'est pas des rentals, là. C'est des joueurs qui ont un très bon contrat pour l'année prochaine. Tout le monde connaît notre situation, plafond salarial. Tout d'un coup, Zach Bogosian se fait racheter par Buffalo. Un autre gros défenseur qui patine, n'a jamais assez de défenseurs. Tous nos défenseurs ont joué dans les séries. On l'a signé. Fait que je pense que c'est move-là que je viens en fait. C'est l'ordre qui a été en nomination pour le directeur général de l'année. Il disait, on était dans le bulle, Julien, moi, et deux autres assistants DG. D'ailleurs, les gars, c'est autant vous autres. On dit, oui, Julien, mais en bout de ligne, c'est toi qui pull the trigger là, qui tire sur la gâchette quand c'est le temps de faire prendre une décision. Oui, on te donne des recommandations, mais en bout de ligne, c'est toi. L'année passée, tout le monde a critiqué l'équipe parce qu'ils ont perdu en quart. C'est toi. Honnêtement, il a fait un travail incroyable.
C'est quoi sa plus grande qualité, Mathieu? Tu le connais depuis longtemps. Je pense que tu le connais à l'époque d'Hamilton quand il gérait le club école du Canadien. Ouais. Mais là, tu le vois, t'es son complice. Puis, je veux dire, au niveau, parce que tu sais, c'est pas juste de l'administration, ça prend du flair. Oui, t'as beau avoir des bons gars de hockey qui vont te guider. Tu sais, Julien, à la base, c'est pas un dépisteur de hockey, mais tu veux pas, quand tu deviens DG, tu deviens responsable de tout ça. Donc, tu sais, au niveau de son évaluation, de sa communication, t'as vanté sa communication. Mais qu'est-ce qui le rend, tu penses, là, vraiment d'une classe à part?
Ben vraiment, c'est une job de leadership. Hein, parce que je viens là, vraiment là, pour le monde qui pense que ah, c'est pas un ancien joueur de hockey. Là. Je mettrais ses connaissances de hockey avec n'importe qui. Il a quand même passé 10 ans avec Bob Gainey, puis ben, mettons 8 à 10 ans avec Bob Gainey et 8 à 10 ans avec Steve Eisenman. Je pense que c'est deux très bonnes personnes pour parler de hockey et apprendre du hockey avec eux. Moi, je pense que sa communication et son leadership, c'est la grosse différence. Parce que le reste, là, on a une grosse équipe. Là, juste notre département d'opération de hockey, on est à peu près 40-50, là, avec les dépisteurs et tout. Donc, chacun a son rôle. Premièrement, il s'est entouré avec les gens que lui voulait, puis des gens qui étaient ici avec Steve avant aussi, mais que lui a décidé de garder. Puis, il y a une confiance, puis c'est sa communication. Là, parce que, tu sais, leadership, communication, pour moi, ça vient ensemble. Là. C'est comme je oui. disais, là, pendant la pandémie, communiquer avec le monde, pendant oui. la saison, la façon qu'il communique avec son coach. Tu sais, il laisse l'entraîneur. Il n'est pas là, là. Lui, il devrait jouer avec lui. Là. L'entraîneur, sa job, c'est de coacher. Notre job, c'est de donner les joueurs. Et rendu là, c'est ta job de coacher. Fait, la façon qu'il communique, laisse ses entraîneurs faire leurs choses. Oui, il va avoir son opinion, il va parler avec eux. Mais il laisse les gens, avec leur expertise, faire qu'est-ce qu'ils font le mieux. Ça, je pense que c'est une de ses grandes forces. C'est sûr, côté stratégie avec plafond salarial, que moi, je sens que j'ai énormément appris de lui cette année, là, que je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme, pratiquement pendant l'année. on voyage avec l'équipe, puis on est au bureau ensemble, puis ça a été, tu sais, là, les stratégies avec le plafond, comme là, ça, c'est pour ça qu'on est déjà au bureau aussi. Tout le monde connaît une situation pour l'année prochaine. Fait que je pense que c'est une de ses grosses forces, une personne extrêmement intelligente, mais son leadership, sa communication, c'est ces deux choses. Et tout le monde peut dire, ah, il connaît le hockey, il fait ci, il fait ça, ou il est bon pour identifier le talent. Oui, c'est bien beau tout ça, mais t'as beau être la meilleure personne pour identifier le talent. Si t'as pas de leadership, t'as pas de, mm-hmm. tu sais pas comment manager ton monde, t'as bien beau être la meilleure personne pour trouver le talent. Ça changera rien. Fait que je pense que c'est une de ses grosses forces.
Mathieu, au plan personnel, as-tu vécu, toi, de grosses émotions quand vous avez gagné la Coupe? Qu'est-ce qui a été le moment marquant pour toi?
Ben, papa, on a vu 76 matchs live. Moi, Julien et les deux autres assistants DG, un qui était celui qui s'occupe du développement des joueurs et l'autre qui s'occupe du pro scouting, si on peut dire. Là. Fait qu'à Toronto, là, on arrivait à 11h le matin à l'aréna, puis on partait à 11h le soir. On a regardé tous les matchs. On en profitait pour avoir plein d'informations sur les joueurs des autres équipes, puis en passant, en même temps, ça passait les journées. Non, le moment, moi, c'est plus quand j'ai FaceTimé ma famille sur la glace, quand on a gagné, tu sais, les sacrifices que ma femme, mes enfants ont fait l'année passée. Les gars, ils avaient 14-16 ans, là, ils sont rendus à 15-17, de déménager comme ça en Floride, partir loin de leurs amis à un âge pas facile, puis que c'est dès la première année, là, comme on dit, it's all worth it, là, ça en vaut la peine. Fait que c'est là que j'ai été un peu plus... Je te dirais émotif sur la glace quand je les ai FaceTimés. Quand on est tous autour, et là, je sais pas si on le voit à télé, quand on est tous autour de Gary Bettman qui est présent de trophée, moi je suis sur le FaceTime en même temps, puis je leur faisais vivre le moment comme moi je le vivais sur la glace. Parce que ça, c'était peut-être le moment plus émotif pour moi, parce que je sais qu'ils ont fait énormément de sacrifices. Puis en arrivant hier, en les voyant, moi, ça faisait 3 mois que je les avais pas vus, parce que, comme je disais tantôt, ma femme et mes gars sont allés faire un tour à Montréal le 26 juin, puis ils sont venus à Tampa 4 jours après que nous, on soit partis. Fait que c'est même 3 mois sans ta famille, mais regarde, ça en vaut la peine, puis on a plein de célébrations. Tantôt, on s'en va dans une parade sur des bateaux, sur le Riverwalk à Tampa, bon, ça va dans le stade des Buccaneers. Je pense qu'il y a 15 000 personnes dans le stade. C'est un gros stade, fait qu'il est réparti le maximum de capacité, c'était ça, qu'ils vont avoir une autre cérémonie pour les joueurs. Donc, on vit quelque chose de vraiment exceptionnel.
Ça devait être quelque chose de vraiment spécial, les retrouvailles, dans le contexte où vous sortiez de la bulle après 2 mois et demi avec la Coupe Stanley. Et vous étiez tous sur un pied d'égalité. À peu près personne n'avait revu sa famille. Ça a dû être un moment magique, ça.
Oui, c'était le fun. Puis, tu sais, moi, mes gars sont plus vieux, mais tu voyais, les gars, ils arrivaient en bas, puis leurs petits-enfants, la part des joueurs, maintenant, sont plus jeunes. Donc, leurs enfants, ils ont des bébés jusqu'à peut-être, je sais pas moi, 6, 7, 8 ans, mettons, dans les plus vieux. Puis là, les enfants qui courent, puis, tu sais, pour les gars, là, oui, nous, c'était difficile aussi, mais c'est pas nous qui a la pression à tous les jours. Oui, on a une pression parce que notre job, on doit gagner. Mais les gars, là, tu sais, à tous les jours, c'était vraiment un grind pour eux autres. Puis, tu sais, nous, les journées de congé, là, on allait voir des matchs d'hockey et tout. Eux autres, là, c'est ce qui était le plus long, c'est quand t'avais des, mettons, entre la série de Boston et la série des Islanders qu'on a eu 6 jours, là. C'est que t'as bien beau dire, OK, tu t'en vas à ta pratique le matin, mais le reste de la journée, t'es dans la bulle, là. T'es à l'hôtel. À Toronto, on avait un setup, peut-être un petit peu, on pouvait marcher au BMO Field, là, pour aller au stade. On avait comme un... Même notre psychologue sportif, il a couru un 12 km à l'intérieur de la bulle. Là. Mais à Edmonton, c'était un petit courtyard. Là. Les gars, ils niaisaient, ils appelaient ça le prison yard. C'est comme ça, dans la prison, puis c'était la, c'était la, c'était la cour dehors de prisonniers. Tout ce qui manquait, c'est un bench press et des poids là, pour faire des poids dehors. Là. Mais tu sais, c'est vraiment là, de rester sur la coche comme ça pendant 2 mois dans un environnement comme ça. Là, moi, je leur lève mon chapeau parce que ils ont été exceptionnels de ce côté-là. Puis tu sais, on a 3-4 restaurants en bulle, mais tu manges la même chose pendant 2 mois. Puis tu sais, encore une fois, il y a personne qui va appliquer deux autres là. Mais ça reste que c'est des humains, là. On est des humains, que t'es pris dans une butte, tu peux pas voir ta famille pendant 2 mois. C'est pas facile non plus, là.
La photo de Bettman ou avec le commissaire lors de la remise de la coupe, Mathieu, moi, je dois te dire que comme spectateur, considérant que, tu sais, le hockey, c'est une grande famille, puis que j'ai trouvé que ça faisait du bien, tout le monde faisait allusion au UV, moi, j'ai trouvé que ça faisait du bien, qu'il n'y en ait pas d'UV, là, puis je sais pas d'où vient l'idée chez le Lightning, je sais pas si c'est Steven Stamkos, le capitaine ou quelqu'un, mais d'avoir inclus le commissaire dans la remise du trophée, j'ai trouvé que c'était un moment touchant, alors que, dans le fond, de l'inclure dans la photo de famille, de la remise de la coupe, tu sais-tu d'où vient l'idée? J'ai trouvé que c'était un geste très classe.
Premièrement, ça a commencé avec la finale de conférence qu'on a gagnée. Tu sais, habituellement, c'est le capitaine qui y va. Puis on était rapidement, tu sais, les 3 assistants, vu que Stamkos ne jouait pas. Mais Stamkos, même tous les joueurs qui étaient là, on avait 28 joueurs. Nous, on n'a pas amené 31, on avait amené 28. Mais au lieu de la finale de conférence, ce soit juste les joueurs qui sont sur la glace qui y aillent, puis l'histoire de ne pas toucher le trophée, ce qui n'a aucun impact sur la finale. En tout cas, moi, là, de licence ben ouais. Qui touche ou qui touche pas, le monde en fait une grosse histoire. Puis, Jamie John Cooper, il a dit, quand on gagne un trophée, on est ridicule. ils ont amené Steven, puis tout de suite, là, au lieu de prendre la photo avec Bill Daly, avec juste les capitaines, mais toute l'équipe est allée. Parce que si on s'en passe en finale, là, c'est pas nécessairement nous qui a décidé, c'est Gary Bettman. Dans écoute son discours, il dit, j'aimerais que toute l'équipe vienne. Parce qu'ici, tu sais, Bettman est arrivé, là, il a fait sa quarantaine à Edmonton quand on était là. Il a pratiquement passé 2 semaines dans la bulle, il a dit, rencontre. OK, wow, moi, je viens de passer 2 semaines, les autres, ça fait 2 mois qu'ils sont là. Fait que c'est Gary Bettman qui a dit à toute l'équipe de venir. J'ai trouvé ça vraiment bien de sa part, puis je sais que le monde aime lui, là, Gary Bettman, le monde aime ce que la Ligue nationale et l'Association des joueurs ont réussi à faire avec les bulles. Pour moi, c'est exceptionnel, parce que puis j'en dis des médias tous les jours, là, tout le monde, pas grand monde y croyait là, au projet, là, si je peux dire. Tout le monde disait, ah, ça n'arrivera jamais, puis même chose avec la NBA Orlando, ça n'a pas d'allure, nanana, puis avoir 0 cas positif, c'est pas juste les joueurs, là. Tu sais, c'était 52 par équipe dans la bulle qui se testait tous les jours. Puis t'as les employés de l'hôtel, là, qui retournaient chez eux le soir. Tu sais, tout le monde avec des masques, puis il y avait presque des polices de masques dans le bulle. Hey, mets ton masque, puis, tu sais, là, d'avoir réussi pendant 2 mois à avoir réussi à terminer la saison, pour moi, c'est un boulot colossal. Fait que, tu sais, Batman, il mérite, et son équipe mérite également des compliments pour tout ça.
Ah, vraiment, c'est admirable, c'est un travail d'ensemble. Je l'ai même senti ému au moment de se sentir entouré. C'est rare qu'il poste une photo d'équipe, puis là, le commissaire, et j'ai senti une certaine émotion à distance via la télévision. Je sais pas si vous, dans la fébrilité du moment, ça pouvait se sentir. Juste pour compléter, Mathieu, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes au bureau depuis tôt ce matin, Julien, toi et tout le département hockey, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui s'en viennent, le repêchage. Tu as fait allusion à quelques reprises à la masse salariale. C'est un secret de polichinelle que vous avez. Bon, il y en a qui spéculent autour de peut-être 10 millions à retrancher à la masse salariale. Donc, est-ce qu'il y a un aspect comment dirais-je, un peu moins le fun que vous allez être obligé de laisser partir des morceaux pour poursuivre l'aventure du Lightning après votre conquête?
Bien, c'est la réalité du sport. Hein. On n'est pas la seule équipe qui est dans une situation. Quand tu as du succès, tu ne veux pas à un moment donné que tu te ramasses coincé sur le plafond parce que tes joueurs, si tu as du succès, ça veut dire que tes joueurs jouent bien, mais qu'ils méritent de se faire payer. Donc, écoute, on a des décisions à faire. On savait avant qu'il y ait une pandémie qu'on avait des décisions à faire. C'est juste qu'avec un plafond qui ne monte pas, ça change un petit peu la donne, mais on a notre plan, puis regarde, ce qui a été le fun pendant passer 2 mois comme ça, c'est que avec Julien, moi, puis les 2 autres assistants DG, on a tellement passé de temps à discuter de tout ça que, tu sais, je pense qu'on a un bon plan en cours, puis t'as un repêchage mardi, on a eu le temps pendant la bulle, on était tout ensemble, on avait nos depth charts accrochés sur le mur dans notre loge, puis on a discuté de pratiquement tous les joueurs dans la ligue, là. Fait que, de ce côté-là, ça a été bon pour nous. Fait qu'on a notre plan, puis on verra ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Puis, notre but, c'est de rester un prétendant à la Coupe Stanley encore pour plusieurs saisons, parce que tout notre noyau est signé. Tu sais, nos meilleurs joueurs, que ce soit Point, Kucherov, Henman, tous ces joueurs-là, il n'y en a pas un qui est en haut de 30 ans.
Non, effectivement, c'est donc on pourrait vous revoir dans le carré d'or, c'est peut-être en finale de la Coupe encore une couple de fois dans les prochaines années, comme ça a été le cas dans les dernières.
C'est ce qu'on
espère. Ben, j'espère pour vous, Mathieu. On est tellement fiers de vous au Québec. Je pense que vous sentez la résonance, là, ça résonne dans le cœur de beaucoup d'amateurs québécois. Je déclinais la liste de tous les gens d'ici, que ce soit Killorn ou tous les francophones ou les autres qui font partie de votre organisation derrière les bancs, dans l'organigramme à Syracuse, à Tampa Bay. On peut pas faire autrement que de se sentir, comment dirais-je, on aime votre équipe. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, je veux pas, il y a plein de raisons de l'aimer. Alors, bonne chance pour la suite. Bonne parade en bateau, mon cher Mathieu. Profitez des festivités, c'est tellement difficile à gagner. Profitez du moment.
Ben, merci beaucoup, Mario.
Au plaisir.
Bye-bye.